Ladies and gentlemen, fellow delegates.
Messieurs, dames, amis délégués, j'aimerais, si possible, pouvoir démarrer. Je m'appelle Stephen Lewis, je suis l'envoyé spécial de l'ONU en Afrique et j'ai le plaisir de modérer cette session ce matin. C'est presque quelque chose de céleste aujourd'hui de ne pas me voir dans l'obligation de faire un discours. Comme vous voyez, selon les chiffres, nous allons traiter ce matin l'interrelation entre la nourriture, la sécurité, la nutrition, le VIH et surtout le lien avec le genre.
Notre groupe pour déterminer les dimensions de la question et sont tous supposés parler pour une période de 10 minutes. Je serai un animateur pervers et draconien. Je veux m'assurer qu'ils ne vont pas dépasser parce que je suis allé à trop de séances où il n'y a pas eu suffisamment de temps pour permettre à l'auditoire de poser des questions et de faire des observations. Alors, donc, pour moi, c'est un ingrédient important de cette discussion. Et vous allez me trouver entièrement dans mon comportement sans amour à l'égard des conférenciers. Alors, le premier conférencier, pour offrir un contexte, c'est Stuart Gillespie, qui est le recherchiste avec l'Institut de recherche de nutrition et le cofondateur de Renewal. Il est l'auteur d'un livre qui traite de ces questions. Stuart peut commencer à vous donner le contexte dans le cadre de ces discussions. Allez-y, Stuart.
Thank you very much, Stephen.
Merci. Alors, je vais parler pendant 10 minutes et j'ai trois parties de ma présentation. Et d'abord, je vais parler de cartes conceptuelles pour naviguer cette interaction entre le sida, la nutrition et la sécurité. La deuxième partie, ce sera donner le genre de manche de grande ligne sur les dépêches. Il faut donner les dépêches de ce qui sera traduit dans cette preuve que nous avons en action efficace. Alors, donc, c'est vraiment ce dont nous parlons. Ce sont l'interaction du côté droite, la convention de la direction, de l'interaction entre le VIH, le SIDA, les précipitants ou exacerbants l'insécurité nutritive et alimentaire. Et aussi, on apprend aussi la flèche de gauche à ceux qui sont les gens qui sont mal nourris et qui sont à plus grand risque d'exposer au virus et de devenir infectés. Alors, dans le cadre de ce cycle, dans la spirale, nous en apprenons davantage sur l'inégalité des sexes. Beaucoup de discussions ont été sur la féminisation de l'épidémie, mais il est important de noter comment la féminisation apparaît du côté gauche au niveau des risques. Les femmes sont culturellement, politiquement plus portées à être infectées par le sida. Et du côté droit, la façon dont les femmes et les enfants sont des charges supplémentaires en plus de tout sur le VIH-SIDA. C'est encore bien compliqué. Le seul point de ce diagramme, c'est d'illustrer la diversité et la complexité de ce que nous faisons. Ça, c'est l'ensemble. Il y a 150 ans, Louis Pasteur a dit « Le microbe n'est rien. Le terrain est tout. » Voici, c'est ça le terrain de l'univers de l'interaction. Alors maintenant, ce que je veux faire remarquer ici, c'est que vous regardez en haut de ce diagramme, vous regardez en haut, et vous voyez les niveaux et les types des moteurs qui font avancer l'épidémie, les risques. À l'épicentre, nous voyons l'infection au VIH. Et en droit, en haut, vous voyez les vagues et les niveaux d'impact. Ce que l'on essaie de faire, c'est le côté en bas, la partie bleue. Nous regardons à gauche et nous essayons de renforcer les résistances au virus à divers niveaux, que ce soit au macro jusqu'au macrobiologique et en bas à droite, nous essayons de renforcer la résistance encore du micro au macro. Encore une autre carte, et ça c'est au niveau du ménage, au niveau communautaire. Alors, les niveaux et les types de susceptibilité vont déterminer si le VIH va entrer dans ce ménage ou dans cette communauté à haut niveau. Alors, ici, l'impact sera déterminé par la vulnérabilité du système de C'est déterminé par des aspects socio-économiques, politiques et aussi par l'effet de l'institution, que ce soit communauté ou au niveau mondial. Les diverses réponses sont complètement en bas. C'est là où on trouve des façons de réagir. Enfin, la réaction, ça c'est souvent un jugement de l'extérieur, ça n'a pas une grande réalité. En fait, ça ressemble à une réaction maintenant. Et dans l'avenir, peut-être que ça va avoir des coûts, c'est-à-dire retirer les enfants des écoles, par exemple. Les conséquences, nous sommes ici pour parler de la sécurité alimentaire, mais bien sûr, ça c'est relié aux questions reliées au sexe, des groupes vulnérables spécifiques. La stigmatisation et la discrimination qui sont bien sûr font partie des conséquences. Mais un point très important, c'est que tout cela, ce sont des informations. Ce sont des informations qui arrivent sur un sens négatif qui vont d'une part, pourraient empirer la stigmatisation, mais d'autre part, si c'est de positif, ça va améliorer la sensibilisation. Et voici maintenant ce qui se produit avec le produit humain. Alors, voici le cercle vicieux entre le VIH et la non-nutrition. Et jusqu'en 1968, lorsqu'on parle du terme NAIDS, qui s'applique à la mauvaise nutrition, en complet ce que nous avons appris à ce moment-là, et le SIDA est une connexion, cette interaction en fait avec le VIH, c'est qu'il accélère ce cycle dans des interactions très spécifiques qui aggravent la situation encore bien plus. Enfin, la deuxième partie maintenant, rapidement, pour vous montrer ce que nous savons de la preuve. Je regarde la dimension ascendante. J'ai vu ici un livre, Le sida, la pauvreté, dont Stephen a parlé un peu plus tôt. Ça, c'est pas la bonne diapo. Alors, ça devrait pas être là. L'insécurité alimentaire qui mène à l'exposition au VIH. Nous savons que les gens qui sont plus à risque, qui sont pauvres, ce sont des gens qui vont se déplacer à la recherche d'emploi. Nous savons que l'insécurité alimentaire exacerbe la situation et cela aggrave, bien sûr. Le sida, c'est une maladie d'accident de travail. Comme par exemple, au Malawi, de plus en plus les femmes sont forcées d'entreprendre des emplois qui sont risqués et le sexe fait souvent partie du contrat. Nous croyons des notes, la conversation de l'agriculture est encore là, c'est les femmes doivent rester dans des marchés et y passer la nuit. Nous savons que le sida, c'est une question domestique, c'est un danger d'infection. Mais aussi, nous savons que si une famille ne peut que gérer, enfin que laver les vêtements, ou n'a simplement que de l'eau courante dans laquelle se laver, les enfants seront peut-être infectés avec des parasites qui, dans une vie future, peuvent les rendre plus à risque d'être infectés par le virus. Des gens qui ont l'insécurité alimentaire ont moins d'accès à l'information et moins d'habilité de s'en servir. En fin de compte, sur le plan fondamental, l'insécurité alimentaire a trait à la malnutrition. La malnutrition, comme telle, peut, comme nous savons, compromettre les fonctions immunitaires. Il y a des liens avec les risques de maladies génétiques pour les enfants qui peuvent conduire à des infections plus graves. Nous savons comment les femmes donnent des enfants ont des taux de fertilité affaiblie et le système gastro-intestinal est plus faible et sont plus portés à être infectés. Il y a des micro-agents et nous devons en apprendre bien davantage là-dessus. D'accord. La deuxième partie, alors, descendant. La tendance descendante, la façon dont l'alimentation et la nutrition peuvent aggraver la situation. Regardez l'agriculture. L'agriculture, c'est la source numéro un, enfin, pour la plupart des gens qui vivent sur la planète et qui vivent avec le VIH. Enfin, dans l'ensemble, la question de subsistance, cela a trait à trois. Les ressources, les pénuries, enfin, c'est pas simplement de la main-d'œuvre. Enfin, ce sont les économies. Enfin, l'économie, c'est la plus grande. Le manque, l'absence d'information, de connaissances, le transfert de connaissances, de compétences des parents aux enfants pour que ces compétences soient transmises à l'enfant. Et aussi une ventilation de capacités institutionnelles et l'effet sur le changement institutionnel. Alors, si on jette un coup d'œil à l'impact qui est encore là, c'est le micro de VIH et l'alimentation. J'ai mentionné un peu plus tôt. Le VIH va monter de 10 à 30% parmi les adultes. Ça, c'est bien documenté par l'Organisation mondiale de la santé de 50 à 100 % parmi les enfants qui vont perdre du poids. Encore là, c'est associé avec un déclin. L'index de la masse du corps accentue la gravité des infections opportunistes et de la mort. L'infection de la masse du corps peut affaiblir aussi le CD4, mais la population que nous voyons dans des domaines où le VIH est très avancé et peut avoir un impact en dépit de la convergence de tout ce qui s'appelle ce qui était là, entre l'urbain et le rural à cause de le VIH. Et aussi des effets indirects pour les enfants la santé est compromise, surtout parmi les femmes en conséquence du VIH. Et les orphelins maternels, ils sont particulièrement en risque, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Alors, maintenant, les deux dernières diapos. Qu'est-ce que nous faisons à ce sujet-là? Nous allons parler davantage. J'ai des nouvelles présentations au niveau des exemples spécifiques à quoi faire. Mais parce que beaucoup de cette situation spécifique, nous devons penser en ce qui concerne des outils, des processus et des principes pour faire de ces preuves des actions. Nous devons renouveler, comme par exemple, nous avons une comparaison à un objectif à deux foyers pour déterminer les questions, que ce soit au niveau des risques ou que nous parlons par exemple de la politique agricole. Il y a toutes sortes de directives qui s'appliquent avec ceux qui établissent des politiques pour changer des situations de risque à des situations de résistance, comme par exemple en aval. Comment est-ce qu'on fait de la vulnérabilité de la résistance? Alors pour conclure, encore là, je ne vais pas tomber dans les détails, mais rapidement, les prochaines étapes, c'est comment nous allons répondre la réponse de Durban, c'était que nous avons quatre catégories d'actions. D'abord, de faire simultanément, d'abord renforcer la résistance du ménage, de la communauté, la résistance au VIH et la résistance au SIDA, à préserver et améliorer les options de vie et de stratégie, la mobilisation de la communauté, la protection des groupes, la protection sociale peut dépasser simplement la sécurité financière et surtout l'accent sur la femme et sur les enfants qui sont touchés par le VIH. Et aussi sous-jacent à tout cela, c'est le renforcement de la capacité à tous les niveaux. Merci. Merci, Stuart, et merci d'être si discipliné concernant l'horaire. Maintenant, je vais demander à Robin Jackson, qui est chef des services VIH-SIDA au programme alimentaire des Nations Unies. Je suis un amateur de cela. Alors, je suis heureux de voir Robin prendre la parole maintenant. Nous avons partagé la tribune hier, alors où il a publié pour la première fois des données financières fascinantes sur le coût international d'offrir des suppléments alimentaires pour ceux qui sont sur ARV. Et vraiment, je suis très heureux de l'avoir ici. Robin a écrit beaucoup de choses sur la question de sécurité alimentaire.
Merci
beaucoup. Ma présentation est divisée en trois sections et c'est essentiellement une illustration de beaucoup de l'information qui doit être partagée avec vous. D'abord, je vais discuter de la méthodologie en ce qui concerne la vulnérabilité, les évaluations. Et ça va présenter des résultats de deux différentes évaluations dans l'Est et dans le Sud de l'Afrique. Et je présenterai une conclusion. Alors, il y a des défis à relever lorsque nous faisons des sondages pour comprendre la dynamique entre la sécurité alimentaire et le SIDA. Plusieurs personnes dans les pays pauvres ne savent pas leur statut VIH. Ça veut dire qu'ils se fient beaucoup sur des remplacements, enfin des indicateurs. Les maladies chroniques sont vraiment un indicateur robuste pour les facteurs qui touchent le SIDA dans les études, même avec les indicateurs. Et cela peut être difficile d'avoir un exemple pour avoir une conclusion définitive pour les ménages. Et en troisième lieu, plusieurs des liens entre le VIH et la sécurité alimentaire sont temporaire. Alors, c'est trop difficile de faire des études pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le temps. Comme par exemple, les ménages qui vendent de leurs biens pour payer pour les soins de santé. Et c'est difficile aussi de mesurer la consommation alimentaire. Il peut y avoir d'autres facteurs qui entrent en jeu. Alors, la première étude que j'aimerais vous présenter, enfin, c'est la surveillance alimentaire qui a été entreprise par deux BFPSICEF dans 6 pays dans la région de l'Afrique du Sud qui est montrée ici. CICEF, c'est le consortium pour la sécurité pour l'émergence, et c'est compris de bon nombre d'ONG, notamment World Vision, et Catholic Relief Services et Care International. Et CHS, c'est un sondage entrepris à tous les 6 mois. Il y en a un qui ensuite pendant la saison sèche. Et ainsi, ce sont les premières manches. Ça a commencé en septembre 2003 et ça se termine en mars 2005. Je ne vais pas tourner dans les méthodologies ici, mais je pense que ce qui est important, dont on doit se rappeler, c'est-à-dire que comme sondage croisé, dans chaque manche, nous avons des ménages. Nous avons divers ménages, mais ce sondage est entrepris dans la même région. Et aussi, l'autre chose, c'est que c'est déterminé pour comparer des ménages qui bénéficient d'assistance alimentaire avec ceux qui ne l'ont pas. Lorsque nous désagrégons la comparaison des familles avec des membres qui sont malades chroniques, avec d'autres qui n'ont pas de maladie chronique, nous avons vu un pattern constant des ménages qui sont bien sûr en difficulté. Et si vous voyez ça montre ici, parce que ça engage en des mécanismes de survivance qui sont en plus difficiles pour répondre à leurs besoins alimentaires. Ceci suggère, c'est que lorsqu'il y a un membre malade chronique dans un ménage, ça peut être un mécanisme de cible pour un transfert, comme par exemple l'aide alimentaire en temps de crise. Nous avons aussi déterminé que les ménages avec des membres qui sont malades chroniques sont plus portés à emprunter de l'argent, et on leur a posé qu'est-ce que vous faites avec les emprunts. Ils ont dit qu'ils l'utilisaient pour acheter de l'argent. La santé et l'éducation ont été suivies sur la liste. Le point ici, c'était que la charge de l'emprunt peut avoir un impact important sur la capacité du ménage de recouvrir après la crise alimentaire. Et ça, c'est surtout vrai pour les ménages liés à des maladies chroniques, parce qu'ils vont probablement perdre un membre productif dont le travail pourrait être à payer la dette. Et cela veut dire que l'aide alimentaire à court terme pourrait les aider à éviter, à s'endetter, puisque la plupart des emprunts sont utilisés pour acheter de la nourriture. Ici, nous avons comparé les stratégies de résister pour ceux qui ont de l'aide alimentaire ou pas. Alors, les ménages qui ont de l'aide alimentaire sentiront beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas à partir des manches 2 à 4, alors qu'il y a un accroissement dans les stratégies de résistance pour les deux groupes dans la manche 4. Il apparaît que c'est moins difficile pour les ménages qui reçoivent de l'argent. Donc, l'aide alimentaire aide les ménages ne doivent pas s'engager dans des stratégies comme, par exemple, surtout pendant les crises. La deuxième évaluation dont je vais parler, c'est un sondage qui a été fait par le WAP. Et c'est une étude qui a des paramètres légèrement différents de ceux que nous avions dans la première étude. Afin d'étudier la sécurité alimentaire, nous avons divisé l'échantillon en des ménages affectés et non affectés. Alors, donc ici, nous avons des affectés, ceux qui, là où la mort s'est passée dans les mois, dans les 6 mois précédents, nous avons aussi divisé par genre, par sexe, chef du ménage et aussi par nombre de familles. Alors, ces résultats appuient ce que nous avons dans le CHS. Alors, les ménages affectés sont plus insécures sur le plan alimentaire que les autres ménages. En fait, plus de 2/3 des ménages affectés sont représentés dans la catégorie insécuritaire sur le plan alimentaire, alors que seulement la moitié des ceux qui ne sont pas insécures alimentairement le sont. Alors, tout cela s'est distribué entre les diverses classes en fonction de savoir si la tête du ménage est un homme ou une femme. Lorsque un ménage touché est dirigé par une femme, l'insécurité accroît à 71%. s'est donné. Non seulement ça confirme ce que Stuart disait, mais aussi ça confirme la notion que les femmes, les ménages dirigés par des femmes sont plus insécuritaires au niveau de la nourriture, surtout s'il y a de la mort ou une maladie chronique, et devraient être ciblés à parler d'alimentaire. Et comme ils sont les plus vulnérables, ils devraient aussi être ciblés pour un appui à plus long terme. L'évaluation aussi a trouvé que deux fois plus de ménages affectés ont vendu de leurs biens. Important de noter que deux tiers ont vendu des atouts de production, ce qui rend le recouvrement financier encore plus difficile. Encore là, ces résultats indiquent que ces familles devraient être ciblées pour aide, pour les aider à répondre à leurs besoins alimentaires à court terme et à long terme. Comme on l'a dit dans d'autres séances, lors de la conférence, l'épreuve des orphelins et aussi la sécurité alimentaire, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus et les conclusions ne sont pas toujours cohérentes. Dans ce cas, ce que nous avons découvert, c'est que dans le comité le plus pauvre, les ménages avec deux ou trois orphelins luttent pour répondre à leurs besoins alimentaires. Lorsqu'on regarde le comité le plus riche, il y a ici une tendance descendante où le nombre d'orphelins semble être corrélé par une meilleure consommation. À premier coup d'œil, c'est étonnant, mais l'une des explications possibles, c'est que les ménages plus riches qui ont la capacité d'absorber des orphelins le font. Les orphelins vivent dans des familles. Nous devons comprendre les caractéristiques de ces familles pour voir à savoir si ces enfants sont vulnérables à la sécurité alimentaire. Lorsqu'on analyse les données sur les orphelins, il faut désagréger par statut socio-économique pour comprendre ce qui se passe vraiment. En conclusion, il y a quelques conclusions que l'on peut tirer des données que je viens de vous présenter. D'abord, il y a des indicateurs que nous pouvons utiliser pour faire des liens entre la sécurité alimentaire et le VIH. Ça veut dire la présence de maladies chroniques dans un ménage, le sexe de la tête du ménage. Et deuxièmement, les données d'Afrique du Sud indiquent que l'aide alimentaire peut faire une différence pour les ménages vulnérables dans des moments de stress. C'est surtout vrai pour les ménages où on retrouve une maladie chronique. Troisièmement, c'est genre de ménage, ou alors des ménages pauvres qui ont trois orphelins, ou des ménages dirigés par des femmes semblent être plus vulnérables à l'insécurité alimentaire que d'autres. Ces ménages doivent être ciblés pour toutes sortes de services et d'aides pour appuyer leur vie et de s'assurer que leurs besoins alimentaires à long terme et à moyen terme seront, on y répondra. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Robin. C'était une graphique extraordinaire sur l'insécurité alimentaire et le genre. J'aimerais maintenant passer à notre prochain conférencier, Gabriel Rubalema, qui est le chef au NDO de l'insécurité alimentaire. Puisque tu es tellement important, tu auras 11 minutes, Gabriel. Voilà le micro, c'est à toi. Merci beaucoup, Stephen. J'ai pensé vous dire que le programme, oui, on nous donne quelque chose comme alimentation, on nous donne également du temps. Merci beaucoup. C'est une partie de ce que nous faisons. Messieurs, dames, j'espère que vous allez écouter comme il faut. Lorsque j'ai vu qu'il y avait toute une grande scène, je me suis dit, ah, ça. Je vais parler justement des liens de la régénération agriculturelle, la protection sociale et la réponse communautaire au sida. Pour vous dire brièvement ce que nous faisons à New York pour tâcher de répondre à ces défis. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Non, j'ai cliqué, mais cela est en train de danser. Enfin. Il y a certaines indications qui ont déjà été présentées par Michael et Robin. Ici, j'en considère les implications à l'organisme nous sommes d'accord pour qu'il y a un besoin urgent de donner, de remplir les besoins des populations pour cela, mais qu'il faut aussi qu'il soit autosuffisant. Alors, quelques réponses que nous faisons. Vous voyez que nous nous basons sur le fait de cibler la vulnérabilité, mais nous avons aussi fait de considérer les dimensions plus générales de l'épidémie. Nous avons également regardé ces dimensions sur plusieurs niveaux en disant qu'il faut faire croître la capacité des communautés, mais également celle des gouvernements. Si nous ne portons pas cet ordre du jour au gouvernement, peut-être qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Donc ici, vous voyez une espèce de carte conceptuelle de nos activités. Alors, la construction au niveau national de capacités, au niveau local, l'appui nutritionnel pour les gens qui vivent avec le VIH-SIDA, l'argent pour l'innovation, et tout cela pour tâcher de donner un pouvoir aux communautés vulnérables, affectés le plus souvent par la maladie. À ce point, j'aimerais maintenant vous parler de trois activités que nous faisons à l'organisme. En particulier, l'une de ces activités, c'est surtout la construction de compétences. Ça s'appelle quoi exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? On a un programme qui s'appelle The Junior Farmer Field and Life Schools Program pour les jeunes fermiers. C'est pour faire augmenter les capacités des jeunes. Ici, nous parlons des trous dans les connaissances, également les compétences qui manquent chez les parents. Nous tâchons de donner à ces enfants des espaces sécuritaires où ils peuvent jouer et apprendre. Bref, nous tâchons de faire davantage de socialisation, aider leur intégration dans la société et dans les écoles. Et nous avons cela actuellement dans l'Afrique du Sud, dans à peu près 7 pays. Quelles sont les leçons que nous sommes en train d'apprendre de cette activité? C'est que l'appui alimentaire est absolument critique. C'est très utile de savoir cela. Les jeunes nous arrivent lorsqu'ils sont mal nourris et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient prêts à jouer lorsqu'ils ont faim. Alors, une des activités centrales, c'est justement de leur donner de la nourriture. Mais il faut organiser les gens dans les communautés pour que ces écoles deviennent de par soi des projets communautaires. On ne peut pas faire ça en dehors de la communauté et non plus en dehors du gouvernement. Vous devez aussi vous assurer que ces endroits, ces gens ne soient pas exploités ou abusés. C'est très facile de le faire. Nous notons également que ce programme aide à intégrer les enfants qui étaient déjà partis une première fois de l'école, avaient abandonné. Cela les fait se réintégrer. Nous pouvons que c'est vraiment très efficace aussi du point de vue coût. Et cela peut très facilement être intégré dans des programmes déjà en existence d'éducation. Dans un programme dans le Mozambique, ils ont pu augmenter maintenant jusqu'à 30 écoles en tout. Et ils veulent maintenant en faire un des programmes de formation professionnelle du pays lui-même actuellement. Quelques autres leçons que nous apprenons. Alors, nous apprenons justement qu'il y a des compétences qui s'apprennent. Il y a aussi, bien sûr, à part les connaissances sur le plan de l'agriculture et les compétences, il y a des compétences de la vie elle-même qui sont nécessaires pour améliorer la confiance en soi, etc. Et ceci aussi aide l'éducation quant au genre et sur d'autres questions. On apprend également et si les enfants apprennent sur le plan social, cela mène au changement social. Ici, nous parlons de pauvreté, mais on ne peut pas lutter contre si on ne parle pas de la question des droits de la propriété, parce que là se trouve quelque chose au sein de la vulnérabilité même. Alors, nous avons fait nombre d'études de recherches qui montrent que les gens qui mettent la main sur la propriété, ça se fait beaucoup. Il y a donc surtout une vulnérabilité, une perte de droits de propriété parmi les femmes et les veuves. Surtout les veuves ont les aides à payer les factures. Dans le Malawi, par exemple, on a également fait un peu de formation juridique dans les organismes non gouvernementaux qui fournissent de l'assistance juridique aux femmes. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est justement comment nous faisons pour fortifier la capacité des institutions, en particulier des gouvernements et ailleurs. Nous avons travaillé avec les gouvernements pour la formation des chercheurs dans beaucoup d'institutions pour qu'il y ait des analyses sur le rôle que joue le sida. Mais nous avons également voulu faire une assistance technique dans la formulation des stratégies agriculturelles aussi liées à la maladie. Dans cette diapo, vous voyez en 2003 la classe dans le Mozambique de 2003, vous les voyez, ils ont pu produire tout cela, ils sont tellement contents. Nous espérons qu'une telle formation soit vraiment centrale pour des millions d'autres gens, non seulement quant aux compétences, mais surtout parlant de l'intégration, de la confiance de soi, etc. Messieurs, dames, vous connaissez bien le titre de cette conférence, qu'il faut passer aux actes. Je pense que c'est aussi le moment de passer à l'acte quant au lien entre l'alimentation et la sécurité et la maladie. Si on ne le fait pas, ce sera bientôt trop tard. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. J'aimerais partager ceci avec vous. Il y a quelques semaines, lorsque j'étais dans le Mozambique, j'ai visité un projet de cette jeune école pour fermiers. C'était absolument impressionnant. Et moi, j'étais impressionnée. Je voyais des gens qui avaient beaucoup plus de confiance en soi. Nous passons maintenant au Kenya et nous allons parler des perspectives de femmes. Nous avons Leonider Amolo Akeye qui a fondé des groupes qui ont été fondés entre sœurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs, Dames, de nous avoir invités, d'avoir voulu nous équiter. Moi, je viens du district de Siaya, dans l'ouest du Kenya, et mon organisme s'appelle GROTS, Grassroots Organization Operating Together in Sisterhood. Alors, c'est des organismes qui travaillent ensemble comme sœurs. Il s'agit d'un groupe de personnes basées dans la communauté de 17 femmes âgées environ de 40 ans. Et nous avons une jeune fille. On travaille ensemble depuis 1995 et on travaille toutes sur une base bénévole et parfois de par des partenariats avec d'autres organismes, en particulier l'organisme de CARE. Siaya, c'est un endroit pauvre et rural. La plupart des gens vont faire de l'agriculture pour trouver un peu plus d'argent et se donner une nourriture. La population est estimée, selon le bureau de statistiques, être de 438 000. Et maintenant, je crois qu'on est plus que ça. Selon nos traditions, la terre est donnée aux fils et non pas aux filles. Et comme ça, la terre dont que possède chaque famille pour sa nourriture et devient de plus en plus petite comme parcelle avec le passage des années. Plus que la moitié des foyers ont une insécurité alimentaire. Le taux de prévalence VIH est 24%, ce qui est plus que trois fois le taux national du Kenya. Il y a beaucoup d'orphelins. Le Conseil national de contrôle du sida estime que presque 50 000 enfants dans le Siaya ont perdu un ou deux parents à cause du sida. Il y en a tellement d'orphelins que la plupart des gens ont le soin d'enfants orphelins en plus. Et il y a des orphelins qui n'ont personne. Le résultat, c'est vraiment des foyers où le chef du foyer est un enfant ou une enfant. Stigmatisation, discrimination, on en a bien trop. Lorsque notre organisation, le GROTS, avait commencé à faire des visitations au foyer en 1995, personne savait quoi faire avec les patients affectés par le VIH-SIDA. Ils les laissaient là, ils les abandonnaient, pour ainsi dire. Et lorsque une femme est infectée du VIH, dans la plupart des cas, le mari et les autres membres de la famille la considèrent comme celle qui a porté ce malheur, cette maladie dans la famille. Alors, on l'accepte pas. Plutôt que de l'accommoder au sein de la famille, dans quelques cas, on les chasse du foyer. Elles doivent rentrer chez leur mère. Alors, imaginez un peu la pauvre mère, les orphelins, elle a à soigner les orphelins de son fils, de sa femme, de sa fille, de son fils. Traditionnellement, lorsque une femme perd son mari, les parents du mari lui prennent sa terre parce que et sa propriété, parce que dans notre tradition, la terre ne peut pas être dans les mains des femmes. Elle peut quand même garder ses enfants. Alors, même si elle garde ses enfants, ça veut dire que ces femmes qui sont déjà très pauvres deviennent encore plus pauvres et ont maintenant tout ce fardeau en plus des enfants qu'elles ont à elles toutes seules. Grotz, dans notre organisme, nous avons pu motiver les membres de la communauté de faire des repas dans les écoles. C'est comme ça, le lunch dans les écoles se faisait. Nous avons à peu près 200 filles, la plupart sont filles, qui ont perdu les deux parents. On leur donne le lunch. On aide ces enfants à faire des jardins potagers dans leur foyer. Et on apprend à ces enfants quelques compétences de l'agriculture. Il y en a qui ont pu faire une formation de par l'appui d'autres organismes. Avec l'aide et la formation de CARE, nous avons créé des groupes de prêts et d'épargne pour surtout des veuves, des femmes très très pauvres. Elles forment des groupes de 5 à 15 membres et sont d'accord chaque fois pour mettre de côté un peu d'argent chaque mois. À chaque réunion, elles se mettent d'accord sur combien prêter et combien vont recevoir de gens des prêts et l'intérêt qu'elles veulent demander. Quand l'argent revient, l'intérêt est mis de côté et prêté encore une fois avec la contribution mensuelle. Maintenant, ces femmes se sentent enrichies, elles se sentent capables de beaucoup plus de choses. Et on fait aussi maintenant, elles ont des kiosques à thé et elles ont des jardins pleins de légumes. cause du fait que les droits de propriété sont tellement quelque chose d'important, un grand problème, on a tâché d'y solutionner aussi le problème. D'abord, on a parlé aux chefs des villages des problèmes des femmes quant à ce sujet de la propriété. Maintenant, ils comprennent et dans la plupart des cas, ils vont intervenir lorsque les parents du mari tâchent de prendre à une femme la propriété. Nous avons aussi fait des partenariats avec des gens qui travaillent sur le plan juridique, des paralegals, lorsque parfois ça marche pas de parler au chef. Nous avons fait des tables rondes avec les groupes avec lesquels nous travaillons. Nous parlons avec eux et avec les leaders, les chefs religieux, les chefs de culture, et on parle des sujets qui touchent les femmes. Par exemple, la vieille pratique où lorsque un frère doit prendre soin des enfants de son frère mort, il protège la femme. C'est ce que devait dans la tradition arriver, mais parfois le frère considère que c'est une façon d'exploitation et avoir de la propriété l'empire. Alors nous tâchons de faire revenir les gens à l'esprit de nos traditions et en même temps il faut dire que la propriété, vraiment, dans les bons vieux jours, lorsqu'il n'y en avait pas, c'était un peu mieux peut-être. Alors nous tâchons justement de faire comprendre à ces frères qu'il faut faire selon les traditions, l'esprit des traditions héréditaires, et en même temps nous tâchons de donner du pouvoir aux femmes pour qu'elles comprennent leurs droits et que personne n'a le droit de les exploiter. Nous sommes très heureux maintenant que les chefs sont d'accord pour coopérer. Et alors, ça, ce n'est qu'une partie de notre programme, car nous fournissons également des soins basés dans le foyer, ancrés dans le foyer. Non seulement des soins infirmiers, mais aussi nettoyage, aller prendre de l'eau, cuisine, aussi des soins, un appui psychosocial. Et on a également formé des clubs. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Lorsque nous aidons des gens vulnérables, que ce sont des veuves ou quelqu'un ou des OVC, ils deviennent plus sécuritaires sur le plan financier. Ils peuvent se donner leur propre nourriture. Et là, ils dépendent moins d'autres membres de la communauté. Et ceci aide à chacun à regagner sa dignité. Dans le cas des gens qui vivent avec le VIH, il y a moins de stigmatisation. Depuis qu'on a commencé à travailler avec CARE sur le projet Kunga Kodhola, c'est un projet très très populaire, très réussi auprès des femmes. Lorsque on a commencé avec CARE à travailler sur ce projet, nous avons notez que les gens sont beaucoup plus amicaux. Ils se parlent, ils partagent les idées, ils chantent ensemble, ils rient ensemble. Et maintenant, ils sont une seule grande famille. Ils partagent les idées et c'est une communauté heureuse. Merci. Que je puisse renforcer vos mots. C'est très émouvant, c'est important d'entendre ce que font ces organismes extraordinaires au niveau communautaire, font pour améliorer le sort des orphelins et dans le contexte des veuves avec la propriété, pour réduire la stigmatisation et donner, créer une atmosphère d'espoir et de bonheur dans la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans cette salle qui en sont témoins. Nous passons à notre dernier conférencier, qui est Sepiwe Hoffes. C'est très facile pour moi parce que il s'agit d'un de mes meilleurs amis. Il est chef du groupe Swapol dans le Swaziland. Swapol, c'est dans ce pays un des organismes les plus formidables et les plus notés. J'ai le plaisir d'inviter CPUA à parler. Merci, Stephen Lewis. Je suis CPUA. En fait, je vis comme femme avec le VIH-Sida. Alors, nous appelons notre organisme SWAPOL, Swaziland Positive Living. Pour dire quelques détails là-dessus, on a été fondé en 2001 par 5 femmes séropositives qui avaient fait l'expérience de la stigmatisation, de la discrimination dans leur famille, dans leur communauté. Actuellement, nous avons 1250 membres, des femmes qui vivent avec le VIH-Sida dans 30 communautés. Notre but principal est de donner une qualité de vie aux gens qui vivent comme cela, aux familles qui en sont affectées, aux orphelins et aux enfants vulnérables. Mais, en fait, qu'est-ce que nous faisons sur le site au niveau fondamental? Alors, j'en parle seulement de 2 buts que nous avons parce que nous faisons tellement de choses dans notre organisme. Un de nos objectifs est justement d'assurer une disponibilité alimentaire au niveau du foyer. Et l'autre objectif dont je parlerai, c'est justement d'améliorer le statut économique pour les gens vivant avec le VIH-Sida, de par la voie économique. Alors maintenant, parlant de ce que nous faisons surtout, et ensuite, pourquoi parler de sécurité alimentaire pour nous? Comme déjà mentionné, il est très important que nous ayons une bonne nutrition. Il nous faut une bonne sécurité au niveau du foyer. Si vous vivez avec le VIH-Sida, vous avez besoin de suppléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que nous faisons quant à la sécurité alimentaire comme activité au SWAPOL? Eh bien, plusieurs activités que nous faisons au niveau communautaire. Tout d'abord, nous produisons de la nourriture. D'abord, la production, n'est-ce pas, de grains, de par exemple, des haricots, le maïs, les haricots jugaux, des noix aussi, sur 11 hectares de terre. Et nous avons comme ça une bonne nutrition, la nutrition dont nous avons besoin. Ensuite, nous avons également un jardin potager, ce que nous avons fait jusqu'alors. Nous avons initié cela pour les gens qui vivent avec le VIH-Sida. C'est au niveau de la communauté, destiné à la consommation de ces gens et aussi pour qu'on puisse gagner un peu d'argent. On les utilise, ces légumes, nous-mêmes, mais bien sûr, les vendre, ça nous donne quelques sous. Une autre activité, c'est les jardins potagers chez chacun. Il y a le jardin potager communautaire, il y a ensuite chez chacun. Et ça, c'est surtout destiné aux patients qui sont critiquement atteints et aux orphelins, les enfants vulnérables. C'est un petit jardin, mais assez petit pour que les enfants eux-mêmes puissent s'en occuper. Et puis ensuite, nous avons un autre projet, c'est la production de tout ce qui peut croître et devenir légumes. Alors, nous avons, nous faisons une distribution chaque fois aux gens qui vivent avec le VIH-SIDA. Et, il s'agit justement d'envoyer cela au niveau local à d'autres maisons. Et qu'est-ce que nous produisons? Eh bien, dans ces fermes, c'est toujours des légumes. C'est des oignons, des tomates, des épinards, de la betterave, des choux, etc. Et avec cela, nous donnons deux repas, un matin, le matin et le second l'après-midi, à nos orphelins. Quelle est la leçon que nous avons apprise jusqu'alors? Tout d'abord, nous disons, comme des gens vivant avec le VIH-SIDA, si vous avez des ressources adéquates, vous voyez que vous pouvez donner du pouvoir aux gens au niveau de la communauté. La bonne nutrition, ça fait prolonger la vie parce que notre système immunitaire reçoit de l'appui. Les gens qui vivent avec le VIH et le SIDA peuvent continuer à travailler sur leurs projets si ils ont une bonne nourriture. Et bien sûr, comme ça, on peut donner de la nourriture à chaque foyer. Si vous vous assurez de donner aussi une formation aux jeunes quant aux compétences comme parents, les jeunes peuvent avoir de la nourriture, un appui social, tout cela au niveau du foyer. Les défis qu'on a tout à l'heure, quand même, d'abord, c'est qu'il n'y a pas assez de fonds pour la sécurité alimentaire. Les organismes veulent trop souvent nous donner quelque chose, mais on ne veut pas recevoir quelque chose comme ça. Nous voulons nous-mêmes faire croître nos légumes, avoir des légumes fraîches. L'autre défi que nous avons encore devant nous, c'est que il y a de plus en plus de demandes pour la sécurité alimentaire, pour tous les groupes d'appui qui travaillent avec les gens vivant avec le VIH-SIDA. On n'a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir des jardins potagers. Alors, je dois dire qu'il y a toujours, ou la plupart des cas derrière un programme réussi, il y a toujours, ou presque toujours, une femme. Sapiwe sera embarrassé sans doute par ce que je dis, mais je voudrais vous informer que lundi soir, dans une rencontre de beaucoup de femmes africaines à cette conférence, beaucoup d'elles étant des leaders, l'Institut de la Société Ouverte et le Fonds des Femmes Africaines, ces groupes se sont réunis pour créer le premier prix inaugural pour l'esprit de lutte. Et qui a reçu ce prix, qui en était le récipiendaire? Ben, c'était Sapiwe. C'est elle qui a reçu le prix. Maintenant, je crois que nous sommes prêtes à entretenir des questions, à recevoir les questions de la part de l'auditoire et nous allons y répondre. Puis-je demander à ceux qui parlent au micro de s'identifier avant et ensuite d'être assez bref.
Laissez-moi d'abord passer au micro 3. Merci. Félicitations à vous tous pour un incroyable travail pour rejoindre ces populations vulnérables. Vraiment, je l'apprécie. Et maintenant, voici ma question. Je vais me poser la question suivante. Vous avez parlé de réseaux et de régions où vous œuvrez auprès des orphelins. En particulier, je me demandais si c'est dans des régions où vous offrez des services d'éducation et des réseaux. Enfin, si vous leur offrez aussi une occasion de recevoir de l'éducation sexuelle, et si c'était le cas, quel genre d'éducation vous offrez à ces enfants? Leonida, C'est vrai, voulez-vous? Vous avez parlé beaucoup d'orphelins dans vos présentations. Thank you, Chair. Alors, puis-je... Thank you, Chair. Nous participons avec le travail des enfants, mais nous n'offrons pas d'éducation sexuelle. Ça fait l'objet de débats au ministère de l'Éducation, à savoir si ça devrait être inclus dans le programme ou pas. Mais dans la mesure où c'est une société qui s'identifie comme une population avec des traditions, une culture qui ne permettent pas une telle éducation dans les écoles. Mais la façon dont nous avons travaillé jusqu'à maintenant, et cela nous a permis, nous avons réussi à mobiliser des fonds pour leur permettre d'aller à l'école. Nous sommes appuyés par des organisations de bienfaisance au Royaume-Uni, et c'est toute une réalisation pour nous. Là où nous sommes, il n'y a même pas un seul orphelin qui est exclu. Merci. Alors maintenant, je passe au micro 2. Oui, mon nom est Barbara Brilliant. Je suis Libéria. Je travaille là depuis 30 ans. Nous travaillons avec l'Église catholique. Nous travaillons dans le domaine du VIH SIDA depuis 2001. Comme vous savez, nous sortons de la guerre. 85% de chômage, mais ma question s'adresse à Robin. Est-ce que enfin, l'Organisation mondiale de la santé pourrait en faire davantage? Maintenant, nous avons des gens qui vivent avec le VIH-SIDA, qui vivent sur une ration simple. Je pense que les femmes qui ont 3-4 dépendants ont besoin d'avoir des rations pour toute la famille. Bien sûr que je suis d'accord avec vous. Et en ce qui concerne enfin, ce que je veux dire, c'est que les politiques du WFP, c'est pas seulement de rejoindre la passion, mais de s'assurer que les familles ont suffisamment à manger. Une chose que je pense que tout le monde ici dans la salle, c'est que le WP s'est fondé, enfin, c'est financé par des bénévoles. Si nous coupons les rations, c'est parce que les donateurs ne financent pas ce genre de programme. Nous nous adressons à vous pour faire des pressions auprès de tous ces gens-là, comme par exemple au Libéria et ailleurs, qui traitent avec les patients, enfin, qui n'ont pas suffisamment mangé. Merci. Micro 1. Merci. Enfin, je suis Jacques Renaud de l'Organisation de l'Institution des Églises à Nairobi. Ce sont des observations. Enfin, on vient de parler des politiques. Mais on n'a pas parlé du commerce. Et aussi, nous sommes traités comme des objets de masse. Lorsque vous nous enlevez enfin 2 kilos de café, ça vous donne 1 $. Enfin, il faut que ce soit traité par nos collègues. Il faut arrêter ça. Pour nous de faire face. L'agriculture, les services ont été privatisés. Comment est-ce que les gens qui vivent avec le VIH commencent à payer pour des services? Bon, les présidents, directeurs généraux font du bon travail, les ONG font du bon travail, mais les droits des personnes ont été réduits. L'élargissement des services sociaux, mais maintenant, ce sont des services avec l'appui de la Banque mondiale et plusieurs pays. Nous devons arrêter. Et finalement, j'aimerais voir nos collègues du Nord dans cette rencontre. Vous nous regardez en Afrique comme étant des gens qui ont besoin d'aide. Nous sommes des partenaires. Nous devons entendre le changement lorsque cela vient au commerce, à l'agriculture et de libérer. Il me semble qu'il y a de bonne possibilité de changement de comportement sexuel à la suite de la pandémie, qu'il y ait la possibilité de changement de comportement dans le monde occidental face au commerce. Microphone 3. Merci. Je suis Carlos Fon. Je travaille pour Sauvons les enfants. Je suis directrice de Fenway Farm Limited, une ferme d'investissement social dans la région éloignée de Malawi. La ferme est cultivée des terres par des pauvres agriculteurs et s'est vendue à d'autres fermiers pour faire pousser de la nourriture. Le problème, c'est l'incohérence des politiques du gouvernement qui affecte nos capacités de planter ce que nous faisons. Parfois, le gouvernement achète les graines pour des plantations cibles. Parfois, les graines sont données par d'autres gouvernements et cela affecte la plantation. Une ferme essaie de planter ce qui pousse sur une rotation de 3 ans. Si le gouvernement n'a pas de politique à long terme, nous pouvons nous tromper à chaque année. Les fermiers risquent de faire pousser la mauvaise récolte et, par conséquent, récolter notre rien. Comment est-ce que nous, FAO, pouvons travailler avec des ministres de l'Agriculture et de la Terre pour créer des politiques stables, pour habiliter les fermiers à planter, de leur permettre de réduire l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité? Merci. C'était une question combinée avec une observation. Je vais passer à notre collègue de FAA. Je pense que c'est une question fort valide. Je crois que cela fait partie de notre projet d'essayer de mettre l'agriculture à l'ordre du jour, non seulement au Malawi, mais dans plusieurs endroits. Les politiques agricoles ne fonctionne pas toujours à l'avantage de la population locale, particulièrement par les communautés qui sont touchées par le VIH/SIDA. Je pense que, surtout pour le Malawi, une occasion, c'est que le ministère de l'Agriculture vient de publier sa politique sur le VIH/SIDA et cela parle de l'équité dans le commerce agricole et comment répondre aux besoins des gens vulnérables. Mais je pense que l'une des bonnes ouvertures que nous avons, c'est que le gouvernement a demandé au ministère des Richesses naturelles et au ministère de l'Agriculture d'en arriver à une stratégie sectorielle. Et cette stratégie sectorielle est formulée maintenant avec l'appui de FAO. Et je pense que tels sentiments font partie de ce que nous allons mettre là. Je pense que si vous contactez FAO au Malawi et que vous me contactez, alors ça c'est une chose dont je vais m'assurer que ce sera dans la politique et voir comment nous pouvons appuyer cela. Merci Gabriel. Je pense que tu devrais t'adresser directement à Gabriel avant de passer au micro 2. Oui, je suis Kwan Bartley, de Check on Best, de programme de soins en Ouganda. D'abord, laissez-moi remercier toutes les fondations, la fondation Stephen Lewis, la fondation qui a permis à beaucoup de CPO, parmi lesquels, de participer à cet événement mondial. Merci. Ma première question est, vous avez parlé de questions de sécurité, mais je n'ai rien eu concernant les suppléments agricoles qu'il pourrait donner à des enfants qui sont dans les services. Si nous avons parlé de la mère-enfant, il faut des suppléments alimentaires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus dans le cadre de ce programme. Et deuxième point, c'est que, bon, ce sont des bons programmes. Cela donne du secours dans certains domaines, dans certaines parties de mon pays et dans d'autres parties de l'Afrique. Mais pendant, ils n'ont pas de méthode durable pour permettre aux gens de continuer à vivre une fois qu'ils ont que le secours n'est plus là. Alors, j'aimerais connaître votre stratégie lorsque vous donnez du secours aux gens et que finalement le secours est interrompu, comment l'on traite de cela? Et souvenez-vous que leur santé est toujours réduite et ne peuvent pas produire de l'alimentation. Alors je veux que cette situation soit résolue. Non, non, ok. Délégation PMTCT, la deuxième question. Concernant la PMTCT et les suppléments alimentaires pour les enfants, je pense que ça c'est une chose qui est dans ces conférences. Il y a exactement une séance sur ce sujet. Ça manquait des 5 jours et c'est quelque chose que nous devons examiner. En ce qui concerne les politiques du WFP, nous nous en tenons aux directives de WHO et de l'UNICEF. Alors, c'est que nous fournissons l'aide pour les gens qui boivent le lait du sein. Et c'est beaucoup plus sécuritaire que d'offrir un substitut, la formule à la mère. Alors, en ce qui concerne le secours, et je pense que ce dont vous parlez, c'est la transition à la durabilité. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et nous étudions aussi la question d'autres partenaires. WP ne opère pas par soi-même, ça opère avec une communauté de prestataires de services. Bon, des travailleurs humanitaires et des ONG. Et ce qu'on doit faire, c'est de nous assurer que le genre de secours que l'on donne suit ce que nous considérons comme un appui à la vie plus durable. C'est exactement ce que nous faisons avec le FAO, avec le Junior Foreign Life School. Simplement, pour reprendre ce que mon collègue a dit, j'ai participé à la séance, je crois que c'était il y a 2 jours, et nous avons parlé ce que ça a été fait au Malawi en travaillant avec la question de l'unité de réhabilitation, c'est d'essayer de donner cette thérapie prête à utiliser aux enfants. Enfin, c'est 30 à 90 jours. Mais l'une des choses qui m'a convaincu qu'il faut faire, qu'il faut donner un suivi à cette sécurité durable, c'est que 25 à 50% sont entre 3 à 6 mois. Ce qui me dit, il faut rencontrer, vous leur donner la nutrition, ils rentrent chez eux et puis ils reviennent. Il faut essayer de rompre ce cycle. Micro 1. Merci. Je m'appelle Boga Fizania de Botswana. Je travaille pour Macron et ma question s'adresse à Gabriel. Pourquoi avez-vous restreint vos projets utiles aux 7 pays du sud de l'Afrique alors qu'il est clair qu'ils sont si utiles et qu'ils pourraient servir au reste de la région si effectivement ce n'est seulement qu'une question de livraison? Merci. Bon, c'est une question très difficile, mais je vous dis ceci, ceux qui travaillent dans ce domaine, et surtout au début, c'était très difficile d'expliquer aux sceptiques que d'abord la nutrition et la sécurité alimentaire, c'est important pour le VIH-Sida, même aujourd'hui. Alors, donc, quelles étaient les conséquences? C'est que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour lancer des programmes là où nous aimerions le faire. Et voilà pourquoi une telle séance comme aujourd'hui devrait jouer un rôle d'intervention et d'essayer de lever plus de fonds pour que ces programmes ne soient pas confinés à des petits villages dans des petits pays au milieu de nulle part, mais que cela puisse aider beaucoup de gens, le plus grand nombre de gens possible. Alors je pense que c'est une question de ressources et aussi la question vraiment qui doit être résolue. Merci. Merci, Gabriel. Micro 3. Bonjour, je suis Reading Smith. Je suis Swazi. Je suis né au Swaziland. J'habite au Swaziland. Je travaille avec 700 femmes rurales qui font des artisanats que nous exportons dans 33 pays à travers le monde. Jusqu'à ce matin, je n'avais jamais entendu parler de Swapo. Je trouve ça étonnant parce que c'est un si petit pays. Alors d'abord, j'aimerais féliciter sur ce que vous faites. Nous venons d'enregistrer une compagnie à l'Assemblée lucrative de façon à ce que nous pouvons faire la même chose. Donc, à la fin de cette séance, j'aimerais connaître vos détails de façon à ce que nous puissions travailler ensemble et nous entraider. Parce que j'aime beaucoup ce que vous faites et nous pouvons faire une grande différence ensemble au Swaziland. Ma deuxième, c'est simplement de dire qu'en réponse à une observation présentée plus tôt, c'est que nous avons travaillé avec la Corporation internationale de la World Bank et nous ont donné aussi de l'aide précieuse pour assurer la durabilité de notre entreprise. Merci. Vous savez, ça ne m'étonne pas. Micro 2. Je suis Philippe, je travaille, je coordonne le VIH, PTMC, l'équipe de gestion. Nous travaillons maintenant dans 9 pays. Ma question est la suivante, s'adresse à Stuart. Vous avez parlé de la relation avec le VIH, l'ordre du jour de la sécurité alimentaire. Je me demande si vous tenez compte des conflits et des situations post-conflit. Je pense que c'est très important dans des pays de faible prévalence comme le Soudan qui sont dans une situation de post-conflit et ne perçoivent pas le VIH comme une priorité, mais ils ont tous les indications de vulnérabilité au VIH. Merci. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important. C'est une question, quelque chose de très négligé. Il y a en fait, ce que nous avons étudié dans le réseau, dans le domaine du nord de l'Ouganda, c'est fondé sur la sécurité du VIH et du SIDA. Et ça n'est pas grave, mais aussi pas suffisamment. Et aussi en ce qui concerne l'interaction, en ce qui concerne les conflits, les réfugiés et la sécurité. Alors, ça simplement pour démontrer que ça a été publié enfin, au niveau des meilleures pratiques par ONU-SIDA. Enfin, c'est une question très importante, mais c'est quelque chose qui malheureusement est négligé. C'est une très bonne question. Et si vous permettez, enfin, dans tous les pays qui sortent de conflits, que ce soit le Soudan, l'Angola, où le taux de prévalence soit très faible ou enfin, authentifié, il y a beaucoup de préoccupations dans ce pays, à savoir de qu'est-ce qui va se passer et d'essayer de comment on peut le contenir. Maintenant, nous allons au micro. Merci beaucoup et merci à tous les conférenciers et merci à tous mes collègues ici aujourd'hui pour votre excellent travail dans ce domaine. Je suis Kelly Greenwood et je suis le partenaire et santé là où les droits de la personne. Nous travaillons au Pérou, en Russie, au Rwanda, à Lesotho et Botswana. Et en fait, je veux faire une observation rapide sur la nutrition de l'enfant du sein de la mère et la question de la prévention de la transmission mère-enfant. Je vous encourage de vous arrêter au kiosque partenaire sur Haïti qui offre des suppléments et c'est basé sur les ressources et les résultats que nous avons eus avec ce programme en Haïti. Ma question a trait à un sujet que nous n'avons pas parlé, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'agriculteurs en Afrique sont traités avec une exploitation minière où les sols sensibles, les minerais de l'Afrique, ceux qui sont utilisés pour des récoltes et qui sont exportés au reste du monde à faible coût. Et pendant ce temps-là, des récoltes sont l'objet de promotion par des institutions financières et aussi par des ministères de l'Agriculture dans plusieurs pays de l'Afrique méridionale. Et ma question la suivante est à titre de communauté médicale et de la santé. Comment pouvons-nous mieux intervenir pour des récoltes qui aient des valeurs nutritives de meilleure qualité pour l'Afrique? Je ne parle pas de développement d'une nouvelle de valeur résistante à la sécheresse, etc. Nous avons déjà cela en Afrique, ça s'appelle ça. Alors nous faisons faire la promotion de récoltes locales et de mieux appuyer les besoins de se débarrasser de cette industrie agricole en Afrique. Merci. Gabriel. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Gabriel? Est-ce que tu es préoccupé avec ta relation avec les institutions financières ou peux-tu répondre Oui, enfin, vas-y. Oui, enfin, oui, vous avez raison. Enfin, ceci s'appliquait le VIH. C'est une exploitation sur le niveau macro. Comment engendrer des éléments de motivation pour que ça se produise? Enfin, ce que le VIH fait, c'est que ça montre à plusieurs niveaux, ça démontre la fragilité des systèmes dans ce cas. Des niveaux nationaux. Alors, enfin, je ne sais pas. Mais, enfin, ça, c'est quelque chose. On va passer au microphone 3. Mon nom est Maria. Je suis de Zimbabwe. Je travaille avec un club international dans un programme de VIH. J'ai le privilège de lire, enfin. Et aussi, à partir de cette déclaration qui a été rédigée en 2001 et l'autre en 2006, c'est une question de révision qui dit que la résolution de l'intégration de la nourriture à l'échelle internationale avec l'objectif que tous les gens en tout temps auront accès à une nourriture sécuritaire et nutritive pour répondre aux besoins. Pour une santé, enfin une vie en santé et active dans le cadre de la réponse totale au VIH/SIDA. Et j'ai aussi le privilège de participer au forum de 2006, là où on a étudié le VIH/SIDA et la sécurité comme épidémie. Je me souviens de ce forum, une déclaration qui est ressortie et ceci, enfin, c'est politique, enfin, c'est déclaration. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment nous assurons-nous que les communautés d'où venons? Merci. Quelqu'un veut répondre à cela? Comment est-ce que vous rendez cela concret? Oui, merci. Je peux offrir une observation rapide. Je pense que la différence entre la rhétorique et la réalité est parfois lorsque vous déterminez ces résolutions, vous ne demandez pas qu'est-ce que ça va prendre pour mettre en œuvre ou surveiller les choses. Alors, je pense qu'en ce qui concerne la mise en œuvre, vous parlez d'alimentaire, est-ce que nous avons les structures, est-ce que vous avez les ressources que cela se produit, comment peut-on surveiller le système? Alors, je pense que c'est une bonne intention, mais ça répond aux ressources pour accompagner et s'assurer que ça devienne réalité. Autrement, ça devient demeure de la rhétorique, ça pourrait être bien pour ces chefs qui restent là. Et pour faire des choses bien plutôt que de recréer le monde, afin que vous les résolvez un problème et qu'ils ne vont pas résoudre. Gabriel, je pense que tu as raison. Je vais suggérer avec un certain moment que les organisations des Nations Unies qui participent à ce processus ne devraient pas se trouver pris dans la fatuité de beaucoup de ces résolutions. Sur, par exemple, le 1er et le 2 juin, les Nations Unies ont rassemblé tout le monde, comme vous savez, pour la déclaration, pour la deuxième déclaration d'engagement sur un gaz. Et l'article 28 disait que toutes les personnes à tout temps auront accès à de la nourriture sécuritaire pour répondre à leurs besoins et leurs préférences alimentaires pour une vie active et en santé dans le cadre d'une réponse complète au VIH et SIDA. Tous les gens en tout temps auront accès. Et il y a quelque chose vraiment qui offense dans ça. Dans le fait que le monde entier qui est d'accord avec ça et qui fait si peu pour le réaliser. C'est important, il me semble, pour les agences des Nations Unies de ne pas être complices dans l'hyperbole rhétorique des gouvernements. C'est ça que les Nations Unies, c'est pour ça que les Nations Unies sont là. Maintenant, je passe au microphone 3. Alors, je suis Retrovilla de Mozambique. Ma première question s'adresse à Gabriel. La majorité de la violence dans le sud de l'Afrique, ça touche les femmes. Alors, je me posais la question à savoir si vous avez élargi enfin ces programmes aux femmes de façon à ce qu'elles puissent obtenir des compétences et aussi des compétences agricoles. Et ma deuxième question, c'est que en Afrique, la plupart des les économies dépendent de l'agriculture. Alors, donc, quoi dire d'en faire une tendance principale dans l'agriculture, parce que les agriculteurs vont dans des endroits où la communauté a besoin de travailler. Nous avons trouvé que cela a eu beaucoup de succès. Alors, donc, je me posais la question à savoir si vous avez pensé à faire cela ou peut-être avec l'aide du ministère de l'Agriculture. Gabriel. Oui, oui. Bien. Bon, je pense que un peu de contexte, que ces écoles agricoles, ça fait partie du IPM de la gestion intégrée et cela a été élargi à l'Afrique. Alors oui, bien sûr, Farmer Field, ce sont des écoles pour les femmes, pour les hommes. Cela fait partie du FAO, du programme de sécurité alimentaire. Et cela doit être dans le pays dont vous venez. Alors, parce que, comme je l'ai dit, cela fait partie des programmes pour la sécurité. Je n'ai pas d'exemple particulier à savoir où se retrouvent les groupes de fermiers, mais en fait aussi nous faisons partie de la prolongation de cette méthode dont on a fait la promotion dans la plupart des pays africains. En ce qui concerne le travail que le ministère, nous avons travaillé avec les divers ministères de l'Agriculture et des Richesses naturelles au niveau de l'intégration du VIH-Sida. Je pense spécifiquement le Malawi, la Zambie, la Tanzanie, en ce moment le Zimbabwe et la Namibie. Robin, tu voulais ajouter quelque chose? Non. En fait, au nom de faire, je voulais parler de notre programme. Je voulais simplement dire que effectivement, dans les PM, dans la gestion, le programme de gestion, ils ont des programmes sur l'éducation préventive et aussi la sensibilisation sur le VIH. Et ça a eu beaucoup de succès pour obtenir ce genre d'informations qui aux hommes, contrairement aux cibles. Merci. Micro 1. Mon nom est Elia Flinger, je suis de l'Université Master en Ontario. Et ma question concerne le réchauffement planétaire. Et je pense que nous sommes tous d'accord que le réchauffement planétaire n'est pas quelque chose qu'on a inventé, qu'il y a des preuves que c'est en train de se produire. Mais je pense, je me demande quel genre de discussion se déroule concernant le réchauffement planétaire et la sécurité alimentaire, que maintenant nous pouvons reconnaître que ce n'est pas de la glace qui fond au nord du 68 par que c'est un programme mondial. Et c'est déjà. Je pense que c'est une bonne question, mais je pense que vous allez un peu trop loin. Et j'aimerais m'en tenir dans les quelques minutes qui nous restent. On va s'en tenir aux questions de la nutrition. Je pense que vous êtes un peu hors d'ordre. Micro 33. Je suis à l'Université de Western Ontario et je travaille avec un projet dans un hôpital à Malawi. Alors, donc, j'ai des questions rapides. D'abord, s'adresse à Robin, et c'est, en fait, c'est une question d'ordre technique en ce qui concerne votre définition des familles affectées par le VIH, étant donné le rôle important que jouent les grand-mères, et ça a été souligné à plusieurs reprises. Où est-ce que les grand-mères qui ont pris des orphelins se retrouvent dans les ménages? Parce qu'il semble que, selon vos définitions, qu'elles sont peut-être manquantes dans vos statistiques. Alors, je serais heureux d'entendre votre réponse là-dessus. Et aussi, je voulais aussi diriger ma deuxième question à Soupiway. Alors que plusieurs hôpitaux ont participé à la production de nourriture qui est distribuée à des orphelins et à des enfants vulnérables. Et je m'intéressais dans votre point, étant donné que les gens qui vivent avec les SIDA font face à des questions de travail, est-ce que la communauté participe à la production alimentaire? Est-ce que vous avez des difficultés à fournir les besoins, à répondre aux besoins de ces orphelins et de ces enfants vulnérables? Merci. Merci, ce sont d'excellentes bonnes questions. Et maintenant, Robin. Les grands-mères dont vous parlez sont dans ce 71% de ménages dirigés par des femmes et qui sont dans les plus vulnérables. C'est là que vous allez retrouver. Et les autres endroits, vous allez les retrouver aussi. C'est là après avec le nombre d'orphelins de plus de 3 et dans les catégories les plus pauvres. Alors oui, je pense qu'ils sont un important groupe. Et, ce qui concerne nous donner, je pense que nous pouvons cerner cela. Merci. Merci, ce P.O.A. Merci. Maintenant, vous pouvez passer le microphone un peu plus près de vous. Merci. En fait, ce que je dirais, je vais dire la question entre en deux volets. D'abord, dans ce qui est offert par les femmes, par les gens qui vivent avec le VIH, c'est lorsque vous êtes séropositif, ça ne veut pas dire que vous êtes faible et que vous ne pouvez pas travailler. Alors, lorsque vous avez le sida, c'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas aller travailler. Mais en ce moment, nous sommes nourris, nous pouvons produire l'alimentation à un niveau. Alors, donc, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Et ensuite, la deuxième partie, c'est que nous avons déjà mobilisé la communauté pour aider dans, si jamais il y a un problème, nous pourrions demander à la communauté concernant ça a été un appui positif de la communauté. Merci. Le Neighborhood Care Point au Swaziland, c'est quelque chose de fascinant. C'est un genre d'activité mutuelle de WFP, UNICEF et SWAP dans des jardins communautaires et la préparation d'alimentation de bonne nourriture pour les enfants. Et ça fait un travail assez incroyable de répondre aux besoins alimentaires des orphelins et des enfants vulnérables. Ça n'a pas été essayé dans d'autres pays. C'est une innovation formidable. Micro 2. Mon nom est Sean Hun, mais je suis en Éthiopie où je travaille avec FO, le consultant national de la santé. Je n'ai pas de questions spécifiques, mais je veux simplement vous donner un compliment sur ce que mes collègues de FAO font, ce qu'ils ont fait. Ainsi, vous avez travaillé. Nous apprécions le lien entre le VIH et le secteur agricole et la nutrition. Ensuite, des brèves observations que nous faisons. Nous avons observé qu'il y a un lien qui n'est pas reconnu, même par ceux qui font les politiques et par les partenaires de mise en œuvre. Nous travaillons à l'intégration du VIH dans l'agriculture. En addition à cela, nous avons aussi identifié qu'il y a un écart de connaissances. Pour cette, nous essayons d'intégrer le VIH dans le programme, dans les installations. Troisièmement, nous avons essayé de développer un programme d'appui nutritionnel pour les gens qui vivent avec le VIH, qui sert de guide pour les travailleurs de la santé. Ce que j'aimerais soulever. Alors maintenant, je vais vous interrompre et je vais dire que peu importe ce que vous avez à prendre à l'attention, on devra suffire. Merci beaucoup. Micro. Merci de cette occasion. D'abord, je veux approuver un plus de travail fait par les femmes. Et je voulais simplement vous donner, enfin, de partager avec vous de comment vous traitez avec la situation des ménages qui sont dirigés par des enfants. Je ne sais pas si vous avez cela pour ça, parce que je suis plusieurs pères de des. Alors, comment est-ce qu'ils font partie du programme que vous menez au niveau agricole?
J'aimerais suggérer que réponde à cette question le leader et Sapiwe. Et par la suite, je vais demander à tous qu'on termine parce que cette session devient un peu longue. Oui, maintenant, sur la question des foyers avec chef de foyer et des enfants. C'est pas une question facile. D'abord, ils sont trop jeunes pour prendre soin d'eux-mêmes et ils n'ont pas les ressources pour ce faire. Alors, dans la plupart des cas, c'est la communauté qui essaye de leur apporter une assistance, leur donner une nourriture, une direction dans laquelle aller. Mais ce n'est pas une chose facile. Merci. Sapiwe? Veux-tu parler sur la question? Il est très difficile de travailler avec ces enfants parce que parfois nous trouvons qu'il n'y a aucune nourriture sur la table. Ils n'ont même pas de vêtements. Mais ce que nous faisons normalement, c'est que nous donnons ce que nous avons. Ou bien nous allons chez nos amis, le Stephen Lewis, la fondation Stephen Lewis, et nous demandons des suppléments alimentaires ou quelque chose pour pouvoir leur donner cela. Parfois, nous mobilisons la communauté pour prendre soin de ces enfants, de les visiter, pour vérifier comment ils vont. Mais il y a un problème qu'on a rencontré jusqu'alors. Mais c'est le problème des jeunes filles qui sont abusées par les autres membres de leur famille pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Et ça, c'est une question difficile avec laquelle terminer notre session. Mais de la part de tout le monde, j'aimerais remercier de tout cœur ce panel excellent ainsi que l'auditoire. Merci à tous d'avoir voulu prendre part à un échange qui était plutôt producteur, productif, plutôt que le contraire, quelque chose qui touchait trop à la longue. Merci de tout cœur, tous, d'être venus.